BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
La suite de BFM Patrimoine dans cette nouvelle heure. On vous parlera du ralentissement économique mondial. Est-ce que les choses sont en train de s'accélérer? L'Allemagne est officiellement entrée en récession. On aura cet après-midi les chiffres du PIB aux États-Unis. Et puis on vous parlera tout à l'heure à 11h30 de l'Assemblée générale des entreprises dans le secteur pétrolier. Ça s'est mal passé pour Shell cette semaine à Londres. Du coup, les dirigeants de Total Energy retiennent leur souffle puisque l'AG de Total, ce sera à suivre demain. Il est 11h03. Nous sommes très en retard. Un point sur l'actu avec Faiza Younzi.
BFM Business, l'info éco.
L'Allemagne en récession au premier trimestre après une deuxième baisse consécutive de son PIB. Il s'est contracté de 0,3% par rapport au trimestre précédent. L'activité allemande est plombée par l'industrie, son poumon économique, dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt. En France, le climat des affaires se dégrade de nouveau en mai. L'indicateur de l'INSEE, qui sonde l'opinion des chefs d'entreprise, baisse pour le troisième mois consécutif et ça se détériore dans l'ensemble des secteurs d'activité. Les tensions persistent sur le marché de l'emploi des cadres. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter, selon l'APEC. Les difficultés concernent 60% d'entre elles et quasiment deux tiers des entreprises ont augmenté les rémunérations pour attirer les candidats. Et parfois même, elles revoient leurs exigences à la baisse, comme nous l'a expliqué ce matin sur le plateau de Good Morning Business Laetitia Niodo. Elle est directrice générale adjointe de l'APEC.
Des ajustements sur le profil du candidat finalement retenu par rapport au profil initialement recherché. Mmh. Et les entreprises ont été plus aptes à accepter des profils avec des compétences techniques moindres et avec des expériences, des niveaux d'expérience, des années d'expérience moindres. Il y a encore un sujet clairement de préjugés sur le fait que les seniors seraient plus chers à l'embauche, seraient moins adaptés aux évolutions technologiques. Vraiment des préjugés sur lesquels il faut qu'on continue à lutter.
Laetitia Niodo, directrice générale adjointe de l'APEC. Triple A sous surveillance, l'agence de notation Fitch pourrait dégrader la note des États-Unis faute d'accord sur la dette avant la date butoir du 1er juin prochain. Les négociations sur le relèvement du plafond de cette dette patinent et font trembler les marchés. On est désormais à une semaine d'un éventuel défaut de paiement des États-Unis. Toujours dans l'actualité internationale, la réplique de la Chine après les accusations des États-Unis. Pékin accuse à son tour Washington de désinformation. Les États-Unis ont dénoncé une cyberattaque de grande ampleur. Plusieurs de ces infrastructures critiques ont été infiltrées par un pirate informatique Volt Typhoon, contrôlé par la Chine. Il a ciblé notamment la base militaire américaine de l'île de Guam. Dans l'actualité des entreprises, Nvidia surprend avec un chiffre d'affaires bien au-delà des attentes, à plus de 7 milliards de dollars au premier trimestre. Son bénéfice progresse de 26% à 2 milliards. Le leader mondial des processeurs graphiques est dopé par le développement de l'intelligence artificielle et ses ventes devraient s'envoler à plus de 10 milliards de dollars au prochain trimestre. C'est une grande première dans le monde. Les investissements dans l'énergie solaire devraient dépasser ceux de la production de pétrole cette année. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le solaire devrait capter 380 milliards de dollars de financement. C'est 10 de plus que le pétrole. Et on termine avec Airbus Hélicoptère qui signe une commande record en Italie. 43 appareils vendus à l'opérateur Air Corporate. Ils seront livrés dans les prochaines années. Le marché des hélicoptères civils retrouve des couleurs après avoir connu deux années très difficiles.
Merci beaucoup, Faiza Younzi. Il est exactement 11h07, les marchés financiers.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et pour faire le point sur cette séance avec nous, Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes venu avec deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on est pratiquement à l'équilibre sur le CAC. La deuxième, c'est que les résultats d'Nvidia, dont on parlait d'ailleurs ensemble à l'antenne cette semaine, sont très très bons et nous annoncent une très belle séance cet après-midi. D'abord sur cette remontée du CAC à Paris, on est pratiquement à l'équilibre alors qu'on avait cassé les 7200 points ce matin.
Oui, je pense que ceux qui font de l'analyse technique ont dû parler certainement du seuil des 7200 qui est très travaillé, avec quelques poids d'indice aussi hein, qui se sont bien retournés. On a notamment Airbus, vous l'avez signalé avec l'arrivée de nouveaux contrats, le secteur bancaire aussi qui se retourne, le luxe aussi qui est en train de repasser dans le vert, donc des gros points d'indice, avec un cas qui est aussi tiré par STM. Hein, on l'a vu avec la nouvelle de cette nuit sur Nvidia, le secteur des semi-conducteurs, que ce soit en France avec STM, ASML aussi qui est en forte progression, est dopé par cette demande très très forte aujourd'hui des semi-conducteurs et des cartes graphiques, cartes mémoire également.
Et puis la bonne nouvelle, évidemment, c'est Nvidia, résultats qui sont spectaculaires. Alors ce que vous nous expliquiez cette semaine, Frédéric, c'est que Nvidia a su capitaliser sur toutes les grandes évolutions technologiques de ces dernières années.
Oui, effectivement, c'est assez amusant, mais vous savez, il y a eu 3-4 grosses thématiques hein, qui se sont dégagées. On a eu par exemple le e-gaming, on a eu les crypto-monnaies, on a eu le métaverse et aujourd'hui on a l'intelligence artificielle. Et il y a un acteur commun à ces 4 thématiques qui ont drivé les marchés depuis maintenant 5-6 ans, c'est Nvidia, qui est le leader incontesté. Je vais faire une petite citation, hein. Vous savez, pendant la ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or qui se sont le plus enrichis, mais les vendeurs de pelles et de pioches. Il s'avère qu'il n'y a qu'un seul vendeur de pelles et de pioches dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans les cartes graphiques, c'est Nvidia. Donc ce positionnement de leader incontesté, incontournable, bénéficie de cet engouement. Et d'ailleurs, le titre et les résultats ont été boostés notamment par les data centers, la demande de data de plus en plus importante par l'intelligence artificielle, la croissance est largement au-dessus des attentes, les résultats largement au-dessus des attentes, et même la valorisation qui peut sembler excessive à cette trajectoire-là, le PER, hein, le multiple de valorisation, sur 2025, il serait plus de 30 fois les bénéfices. Donc vous voyez qu'avec une croissance de quasiment 60% par an, ça fait finalement un titre qui n'est pas si cher malgré la hausse attendue de 25% qui l'amène bon an mal an pas loin du 1000 milliards de capitalisation confirmant le statut de 5e ou 6e capitalisation mondiale.
Merci beaucoup Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Merci aussi d'avoir signalé ce sujet en début de semaine puisqu'on en avait parlé ensemble à l'antenne. C'est donc la valeur qu'il faudra suivre cet après-midi aux États-Unis. 11h10, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Et nos deux invités ce matin, Alexandre Ezez. Je ne sais jamais si on dit Ezez ou Ezez.
Ezez.
Ezez. Bon, j'avais une chance sur deux. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Directeur de la gestion financière chez Richelieu Gestion et Marc Riez ou Riez.
Comme vous voulez.
Marc Riez, directeur général de Vega Investment Managers. Bonjour.
Merci. Bonjour.
On va parler du ralentissement de l'économie au niveau mondial. On a l'impression que les choses sont un petit peu en train de s'accélérer. On a eu ce matin les chiffres de la croissance allemande pour le premier trimestre. Alors c'est la deuxième estimation. La première était de moins 0,1%. Finalement, ce sera moins 0,3%. Et comme le trimestre précédent était déjà dans le rouge, Marc, on est techniquement en récession.
Voilà. L'Allemagne est en récession. Alors on se souvient que c'était le pays un peu qui était le plus exposé finalement à cette crise de la guerre ukrainienne, parce que c'est un pays où il y a encore de l'industrie, donc les coûts de production l'ont pénalisé quand même dans des métiers phares de l'Allemagne. Il y a des industries en Allemagne comme l'automobile hein, qui pèsent encore lourd dans le PIB allemand. Et donc c'est vrai que par rapport à nous, qui sommes plutôt un pays de service, l'Allemagne est quand même en première ligne sur la crise qui s'est déclenchée en 2022. Donc c'était attendu, cette sensibilité de l'Allemagne, le fait qu'elle allait rentrer en récession. Et voilà, ça se produit. C'est vrai que ça donne envie, un peu tout ce qu'on voit en Allemagne, aux États-Unis, etc. Ça donne un peu envie d'alléger les portefeuilles aujourd'hui, d'autant que les marchés boursiers ont quand même beaucoup monté depuis le 1er janvier. Ils ont surtout beaucoup monté depuis fin septembre 2022. Et donc là, on se dit que, voilà, nous, on a, la semaine dernière, on a un peu allégé les portefeuilles, parce que, effectivement, il n'y a pas que l'Allemagne qui inquiète, mais l'Allemagne, voilà, est le symbole de cette crise.
On va en parler dans un instant, justement, des perspectives sur les marchés actions. Alexandre Ezez, on a pris l'habitude de faire le distinguo entre une récession technique et une véritable récession, comme si en fait il y en avait une qui était juste parce que les règles sont établies comme ça, et une autre qui serait une récession sérieuse entre guillemets. Vous êtes de cette école-là, vous dites bon, récession en Allemagne, mais c'est l'épaisseur du trait, moins 0,4, moins 0,3.
Alors moins 0,4, moins 0,3, effectivement c'est l'épaisseur du trait, mais c'est vrai qu'une récession technique, c'est des chiffres, ça peut être lié à des stocks, à une moindre consommation, donc il faut déjà analyser à l'intérieur même de la composition de la croissance ce qui ne va pas. Clairement l'investissement en Allemagne ne repart pas. Alors c'est vrai qu'en plus on a une Chine qui redépart difficilement avec un pays comme l'Allemagne qui était très sensible à cette sphère. Donc l'Allemagne c'est l'homme malade de l'Europe depuis quelques années. Hein. Finalement c'était le meilleur élève et on voit qu'il y a vraiment une différenciation entre l'Allemagne et le reste de l'Europe. C'est pour ça qu'en zone euro globalement on va pas être en récession cette année. On aura une croissance autour de 0,7, 0,8 peut-être. Alors ça peut baisser en termes sur la fin de l'année, mais grosso modo on sait que l'Allemagne c'est le pire élève, donc ce qu'on attend là pour l'Allemagne finalement c'est le point bas de l'ensemble des autres pays de la zone euro.
Quel est le scénario attendu au niveau mondial? Est-ce que vous attendez toujours un atterrissage en douceur ou est-ce qu'il y a un risque de décrochage? On aura cet après-midi la deuxième estimation du PIB américain pour le premier trimestre. La première estimation c'était une croissance de 1,1% d'un trimestre sur l'autre, mais le consensus était à 2%. C'était très en dessous.
Tout à fait, ça avait surpris assez fortement aux États-Unis. Nous, on s'attend à un ralentissement en douceur, hein. On ne s'attend pas à une crise. Même aux États-Unis, c'est peut-être le pays sur lequel les analystes se focalisent le plus, parce que beaucoup attendent, finalement, si c'est la récession la plus attendue historiquement, c'est-à-dire qu'on a des pourcentages de récession. C'est vrai qu'on n'a jamais vu des courbes inversées comme celle de cet acabit, donc, qui normalement amène une récession. On est dans des configurations quand même très particulières. Nous, on ne s'attend pas à une récession forte, peut-être une récession technique un peu comme en Allemagne, mais un retour à partir du troisième, quatrième trimestre. Le deuxième trimestre américain va être certainement beaucoup plus difficile. Il y a eu beaucoup de restrictions de crédit. Et ce qui est quand même, il faut voir quelque chose, c'est que la récession, en tout cas cet atterrissage, est organisé par les banques centrales. Il faut un atterrissage parce qu'il faut faire baisser cette inflation. Si on avait un redémarrage, le vrai enjeu, c'est pas pour cette année en termes de croissance. Le vrai enjeu, c'est 2024. Si on a un redémarrage de l'inflation et une croissance qui est peut-être plus vigoureuse, là, on aura un vrai problème sur l'inflation.
Donc, vous êtes en train de me dire que les banques centrales feront ce qu'il faut faire pour s'assurer qu'on a un atterrissage.
Et si vous voulez, c'est ce qui est un peu compliqué pour nous gérants. C'est que finalement, et dans la lignée de ce que dit Alexandre, c'est que pour le marché, presque une mauvaise nouvelle est devenue une bonne. Oui. C'est-à-dire que, en fait, le marché se dit, ben voilà, si enfin l'économie américaine commence à ralentir, c'est pas trop tôt, ça va permettre à la réserve fédérale américaine de lever un peu le pied, d'arrêter un peu de monter les taux, etc. Et donc, du point de vue d'un investisseur, ce qui accrédite le fait que l'économie américaine est pas si mal perçue que ça, parce que l'alternative est pire, c'est-à-dire l'économie américaine ne montre pas de signe de ralentissement, et là la réserve fédérale est obligée de redonner un coup de massue pour calmer la bête. Et donc pour le coup, effectivement, ces chiffres-là, ils sont interprétés un peu à double tranchant. Et plus en ce moment, dans le sens, on voudrait que ça ralentisse un peu, parce que le discours des membres de la Réserve fédérale est très dur. Et donc on se dit, il ne faudrait pas qu'ils prennent le moindre prétexte de bonne tenue de l'économie américaine pour remettre des couches de hausse de taux.
Est-ce que vous pensez que les marchés actions sont en train de prendre conscience de la possibilité d'un ralentissement peut-être plus rapide que prévu? À Paris, le CAC a très bien performé sur une première partie de l'année. Ensuite, on a eu une période plus hésitante. Et là, depuis quelques jours, on enchaîne les baisses.
Oui. Mais je ne trouve pas très surprenant qu'il y ait cette période un peu de respiration.
Quelques jours, on est passé de 7005 à 7002.
À 7002. Donc, c'est quand même pas rien. C'est 300 points. Ça fait 4%. Donc, c'est quand même... Voilà. Il y a des valeurs, d'ailleurs, comme des valeurs du luxe, hein, qui ont corrigé encore plus que ça. On a vu Hermès perdre 6% avant-hier. Donc, il y a quand même une respiration en ce moment. Et après, par contre, le scénario, c'est que 2024, devrait être une année où la croissance mondiale repart et où les taux d'intérêt américains commenceraient à baisser.
Vous êtes déjà dans le coup d'après, là.
Ça, c'est, ah ben, c'est, le problème du marché, c'est que... Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment... qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois?
Qu'est-ce qu'on fait sur un marché comme celui-ci qui est en train de ralentir?
Alors, un marché, on va sélectionner, effectivement, on va sélectionner des entreprises qui sont capables de naviguer dans ce marché-là. Ce qui est intéressant, quand on parlait de l'économie qui va certainement refluer un peu, on a quand même un recul. Les entreprises ont très bien, finalement, navigué dans des phases de croissance, des phases de récession. Et donc, c'est pour ça que le marché actions et les entreprises ont encore un attrait, parce que même s'il y a un ralentissement, on voit quand même que les entreprises ont su opérer des modifications sur leur bilan, ont su utiliser la dette pour faire ce qu'il fallait, avec des entreprises qui sont finalement peu ou pas endettées, en tout cas qui sont de bonne qualité en termes de crédit. Et donc, la hausse des taux pour les grandes entreprises n'est pas véritablement un problème. Donc sur le marché actions, nous pensons, nous, qu'il faut rester investi, effectivement baisser un petit peu. Alors on n'a pas parlé, mais c'est vrai que cette période de dette américaine, de plafond de la dette, c'est une période qui est hautement volatile.
Il reste une semaine avant de trouver un accord aux États-Unis.
Une semaine, après il va avoir peut-être... Mais et historiquement, regardez en 2011, quand ça s'est produit en tout cas, le marché avait baissé de 17%.
Donc, c'est intéressant que vous fassiez cette parenthèse, on peut en parler. Ça. Pour l'instant, les démocrates et les républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord aux États-Unis sur le relèvement du plafond de la dette. Est-ce que vous pensez très honnêtement, le risque de défaut, ça serait catastrophique pour le dollar américain. Est-ce que vous
pas
pensez
seulement.
Sincèrement, pas seulement, mais oui, en tout cas pour la suprématie du dollar, est-ce que vous pensez très sincèrement qu'il n'y aura pas une forme d'union sacrée à la dernière minute pour sauver le soldat dollar?
Je ne sais pas. Moi, j'ai déjà pensé ça pour le Brexit. J'ai pensé ça également pour l'élection de Trump. Et je me suis trompé les deux fois. En se disant les gens seront raisonnables et au dernier moment ils vont trouver, enfin voilà, mais là je suis quand même inquiet parce que j'ai l'impression qu'il y a une dégradation quand même des rapports dans la vie publique américaine, qu'il y a quand même un jusqu'au boutisme des républicains. Après c'est certain que s'ils vont jusque là et qu'ils font faire faillite à l'Amérique, ce ne sera pas nécessairement excellent pour eux électoralement sur le long terme.
Alexandre. Vous savez, ça serait évidemment un grand choc. Il y a une polarisation de la politique américaine comme on n'a jamais vu. Marc parlait des républicains, mais aussi des démocrates. C'est-à-dire qu'il faut trouver un accord. De toute manière, le véritable enjeu, c'est les élections de 2024. Donc, personnellement, je pense qu'ils vont trouver un accord au moins pour tenir là, parce qu'il y aura, le juge de paix des élections, où là, tout va changer, où finalement, Biden n'est pas du tout sûr d'être élu. S'il y a un républicain modéré, le résultat semble assez acquis pour le républicain. Donc, il y a une attente à avoir. Il y a beaucoup de problèmes techniques qui sont gigantesques. C'est des questions qu'on ne pouvait pas se poser, qu'on va se poser. Les États-Unis sont en défaut de quelques jours, mais que faire des collatéraux? La dette américaine sert de collatéraux. Alors nous, ce qu'on est en train d'écrire là pour nos clients, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que finalement, l'actif le plus sûr au monde, qui est la dette américaine, je veux dire, c'est dans la Constitution, etc., n'est plus un actif sûr. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'actif sûr.
Ça donne une chance aux autres.
Ça donne alors une chance aux autres.
Autres actifs.
Et finalement, on a vu que ce plafond, qui était un plafond qui n'existait pas dans les autres pays, n'a jamais empêché de s'endetter. 124% du PIB. Ouais. Les États-Unis sont dans une situation comme maintenant les autres pays. C'est une situation qui va être compliquée. Je crois que la présidente du FMI parlait, j'aime bien ce terme, ça va être fait à la 11e heure.
Ça
va tendre le marché jusqu'au dernier moment. Il y aura peut-être une prolongation, un accord. De toute manière, il y a ces élections présidentielles qui seront le juge de paix. Et tous ont intérêt, en tout cas, à essayer de négocier jusqu'à cette échéance.
Et ça, puis le marché va rebondir s'il y a cet accord.
Ah oui, attention. Ça s'est produit 89 fois.
C'est ça.
Cette négociation sur le plafond de la dette.
Pour le
américaine.
Coup, tout le monde croit que ça va bien se passer, puisque comme ça a marché 89 fois, et puis toujours au dernier moment, etc. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui se disent, bon, au dernier moment, ce sera comme d'habitude, etc.
Mais pourquoi les choses seraient différentes?
Ah, je pense qu'il y a quand même un risque cette fois-ci, à cause justement de la dégradation de la vie politique aux États-Unis. On l'a vu avec déjà un président qui essaie de prendre d'assaut le Capitole. Enfin, il y a quand même une... on parlait de polarisation, moi je trouve qu'il y a une violence, quoi, carrément politique aux États-Unis, une rancœur énorme.
Il n'y a plus de tabou.
Ouais, c'est ça.
Et le marché le prend en compte quand même, parce que les crédits default swap sur les États-Unis, qui est quand même
sont normalement,
on n'a jamais vu depuis 20 ans,
c'est-à-dire aussi élevé.
Il y a quand même le marché price, en tout cas, met dans le prix du risque sur les États-Unis un choc de quelques jours peut-être, mais il suffit qu'il y ait juste quelques jours de défaut pour que ça déclenche mouvements, des clauses dans des contrats, etc.
Faudrait pas que ça dure trop longtemps.
Inconnu.
Les CDS, les crédits de default swap, est-ce que, très sincèrement, ils sont en mesure de couvrir les conséquences d'un défaut américain? C'est une assurance contre un défaut sur la dette américaine, mais les chiffres sont tellement astronomiques que ça mettrait...
Ça ferait sauter tout le...
Oui et non, parce qu'un défaut, c'est aussi un bien grand mot. C'est-à-dire qu'un défaut, ça peut être juste un non-paiement de coupons ou une échéance sur quelques jours, ou là, en termes...
Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas solvable.
Tout d'un coup, il y a 13 000 milliards de dettes qui partent en fumée. Mais ça va déclencher, effectivement, des clauses de collatéraux, etc. Et ça, on est dans l'inconnu. Je crois que c'est plutôt ça. C'est les conséquences, les doubles conséquences qui d'être plus importante que pour les États-Unis eux-mêmes.
On va revenir sur les marchés d'actions. Je disais, on a démarré l'année en fanfare, les marchés ont bien tenu. En réalité, il y a une catégorie de valeurs qui s'est bien comportée. Les valeurs technologiques aux États-Unis, les valeurs du luxe sur le marché parisien. Mais si on regarde les 90 autres % du marché, le début de l'année n'a pas été aussi spectaculaire, Marc.
C'est très vrai, et notamment sur les mid-cap ou sur ces valeurs-là. C'est vrai que ce sont quelques valeurs qui ont capté, en fait, tous les investisseurs nouveaux qui sont rentrés sur le marché.
Avec des thématiques, intelligence artificielle, et on va encore en
parler. Voilà, on l'a vu, effectivement, avec Nvidia ou avec Microsoft, quand ChatGPT a fait ses annonces. Le luxe français, effectivement, a été très, très mis en avant. Bon, mais d'une manière générale, quand on regarde un peu les évolutions sectorielles cette année, on voit que dans le haut du panier, on a vraiment tout ce qui est valeur cyclique. Alors effectivement, on a parlé de la tech et du luxe, il y a aussi la construction, il y a aussi l'automobile. Toutes les valeurs qui profitent un peu du cycle ont monté. Or, là on voit bien que si on parle un peu de ralentissement, d'accalmie, tout ça, ces valeurs qui ont beaucoup monté en début d'année pourraient quand même souffrir, on l'a vu pour le luxe mardi, mais ça pourrait aussi survenir sur la construction, sur l'automobile, voilà, sur ces valeurs qui ont beaucoup profité du rebond. Et c'est vrai qu'elles ont laissé derrière elles un très grand nombre de boîtes dont le cours a stagné, en fait, depuis 6 mois.
Vous êtes des professionnels de l'investissement. Est-ce que cette configuration, c'est-à-dire avec quelques valeurs qui tirent tout le reste du marché, c'est fréquent ou c'est exceptionnel, Alexandre ?
C'est assez fréquent.
Ces dernières années, c'est beaucoup ça.
Il faut savoir qu'il y a une concentration des indices de plus en plus.
Apple.
Et notamment sur le plus grand indice au monde, qui est le Standard & Poor's. Effectivement, vous avez 5 valeurs qui représentent 25-30% de ce marché.
C'est un trend.
Donc, Apple, la capitalisation boursière, c'est la capitalisation du DAX, plus que la capitalisation du DAX allemand ou du CAC 40. Réunis, donc c'est les valeurs françaises. Donc on comprend bien que même quand vous êtes investisseur sur la même part de capitalisation, réfléchir sur une valeur ou réfléchir sur 300 valeurs d'Eurostock, l'enjeu est rapide. Donc il y a cette concentration, on l'a vu sur la GAFAM, progressivement, on a vu ça sur l'Europe avec les granolas, ce qu'on appelait les granolas, les grandes sociétés, et en fait elles sont privilégiées parce qu'il y a la gestion passive surtout qui privilégie ça quand vous avez des trackers, puisque la gestion se fait de plus en plus par tracker et de manière indicielle, bah effectivement les flux vont sur
ces périodes-là. Et puis au-delà de ces trackers qui les captent, il y a aussi le fait que vous avez quelques boîtes dans le monde qui capte l'essentiel des bénéfices de l'économie. Et ça, c'est quand même incroyable. Vous avez des géants comme Microsoft, comme Google, comme Apple, qui sont devenus des acteurs complètement incontournables et inconcurrençables presque de l'économie mondiale.
On va parler de l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment devenu une thématique dominante sur le marché de la tech. Hier soir, Nvidia a publié de très bons résultats portés justement par l'intelligence artificielle. C'est incroyable cette valeur. Est-ce que ça, c'est le coup de fouet, le relais de croissance dont le marché avait besoin ?
Oui, ça peut être effectivement, oui.
Alexandre ?
Oui, je pense aussi. Ça donne une espérance d'un vrai changement technologique et d'une révolution. Je pense. Et Nvidia fait partie effectivement des grands gagnants. Il y aura des grands perdants. On ne les a pas encore, mais je pense que les prochains mois, on va écréter, les entreprises qui vont perdre effectivement des parts de la marché ou leur valeur du fait de l'intelligence artificielle. Oui.
Alors la différence, moi j'ai une oreillette, vous n'en avez pas, je vais vous informer de ce qui est en train de se passer, mais depuis un quart d'heure, en fait, on a un énorme problème technique en régie, donc on va devoir continuer notre débat jusqu'à ce que ce soit réparé. Alors on va pouvoir rentrer en détail dans, dans votre stratégie d'investissement à l'un et à l'autre. Oui. Qu'est-ce que vous achetez comme catégorie de valeur en ce moment ? Cyclique, valeur défensive, valeur de croissance ?
Voilà. Là, nous, on a quand même le sentiment que le cyclique, ayant beaucoup monté depuis le début de l'année, c'est plutôt le moment d'en sortir. Et donc, pour le coup, aller effectivement sur des valeurs un peu plus défensives. Ça, c'est vraiment la première idée. Et la deuxième idée, c'est de se dire, bon, cette tension qu'on a depuis quelques jours, quelques semaines, soit sur les taux, est quand même plutôt historiquement dans un point haut. Donc, si on se projette à un an, à deux ans, on voit quand même plutôt les taux rebaisser un peu. Et donc, c'est vrai que les valeurs de croissance dans cette configuration devraient continuer à bien se porter. Moi, je pense quand même que le secteur de la technologie, qui a été le dernier à rebondir, souvenez-vous que encore en début d'année, les valeurs techno avaient très peu rebondi, alors que le luxe, l'industrie...
Elles avaient quand même pris beaucoup d'avance pendant le Covid. Hein.
C'est vrai. Mais en tout cas, là, on a l'impression que ces valeurs-là reste quand même encore intéressante malgré tout. Et donc, c'était plutôt, voilà, vente de l'automobile et du cyclique, donc loisirs, tout ça, et plus vers les technos. Et quant au luxe, bah, moi, je ne le vends jamais, parce que vous savez très bien, Stéphane, vous vendez votre valeur du luxe, vous êtes content pendant trois jours parce qu'elle a baissé, et après, vous ne la revoyez jamais parce qu'elle est repartie vers les sommets.
Même à des niveaux de valorisation très élevés, on est à plus de 50 fois les perspectives de résultats sur Hermès.
Oui, ça les vaut.
Ça les vaut.
Ah, Hermès, s'il y avait 50 Hermès sur la côte, on l'aurait su avec Alexandre depuis le temps qu'on y est.
Il n'y en a qu'une.
On n'en a vu qu'une, nous.
Alexandre, quelle est votre stratégie ?
Non, on est un peu sur les mêmes stratégies, c'est-à-dire sur le cyclique et la value en tant que telle qui avait très bien performé avec ses espérances, effectivement, d'une croissance économique plus importante. C'est vrai que la croissance lisible nous semble beaucoup plus intéressante. On parlait de l'automobile qui est un secteur qui commence à déréter et c'est vrai qu'on a avec Tesla qui commence à rentrer dans une guerre des prix. Bon, quand on dit guerre des prix, on se dit bien qu'avec une dynamique sur l'inflation comme on va avoir, il faut avoir un pricing power. Vous êtes dans la guerre des prix, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc l'automobile est peut-être un secteur à moins privilégier maintenant. Sur les secteurs de la technologie, nous, on est tout à fait dans ce sens-là. De toute manière, l'innovation va être à privilégier. Et si on a un tassement, en tout cas des taux d'intérêt, en tout cas un maintien de ces taux d'intérêt, ça sera plutôt effectivement les secteurs dans lesquels il va falloir investir. Et puis dernière chose, c'est bon, on va pas reparler du luxe, mais effectivement c'est des valeurs incontournables, des valeurs de croissance long terme, pricing power. Puis il y a ce secteur bancaire, on sait pas trop, qui était un des best performers, le meilleur performer jusqu'à l'histoire des banques régionales. Attention, parce que c'est vrai que quand on corrige du risque maintenant, le dividende des banques était très intéressant et moins intéressant par rapport au taux maintenant, et donc on est plutôt des grandes banques, pourquoi pas, mais on est plutôt attentiste sur ces secteurs-là. Donc, privilégier la croissance avoir un prisme sur le dividende. Dans des marchés qui ont des taux plutôt élevés, la pérennité du dividende, c'est quelque chose que les analystes vont regarder pour, en tout cas, rémunérer l'actionnaire minoritaire.
On est d'accord, les banques, c'est la grosse déception de ce début d'année.
Oui.
On avait dit, avec la remontée des taux...
Ça les favorise, elles peuvent refaire leur métier, tout ça, mais bon, avec des courbes inversées, c'est pas si simple.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce regard croisé. Alors, on n'a pas de jingle, donc on va vous laisser sortir, faire comme à l'ancienne. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Et on va donner la parole à Jean-Louis Cussac, qui est en duplex avec nous. J'espère que Jean-Louis m'entend. Jean-Louis, les choses sont un petit peu en train de s'améliorer. On perd 0,1% sur le CAC. 7243 points. Pour rappel, il y a une heure et demie au début de cette émission, on avait cassé la barre des 7200 points.
Alors, c'est vraiment la conséquence d'une hyper-hésitation et pas forcément d'une conviction vendeuse extrêmement forte. Donc, on est, si vous voulez, dans une situation de retracement qui permet aux acheteurs potentiels de se décider à prendre des initiatives, parce que là, bon, on a perdu 3-4%. Mais, si vous voulez, ils hésitent. Il y a trop de menaces. Je vous le disais hier, quand même, l'inflation en Grande-Bretagne a fait peur. Les indices PMI n'étaient pas bons. L'IFO n'était pas bon. Le plafond de la dette, on ne sait pas, mais on va peut-être aller vers un shutdown. Comme on avait fait les fois précédentes, hein, ça restera peut-être temporaire, mais ça peut durer, on ne sait pas. La situation peut en tout cas ne pas être réglée au 1er juin. Et là, donc, devant, si vous voulez, tout cela, c'est normal que les acheteurs hésitent et qu'ils se disent, après tout, on a le temps, on ne va pas se précipiter. Donc, il y a un manque de densité, on baisse fortement, puis on remonte fortement pour de la journée, hein, puisque qu'est-ce qui justifie comme ça qu'on démarre très positivement? Alors, hier soir, les futurs américains sont montés grâce à Nvidia, qui est attendue en hausse de 25%. Hein, aftermarket, c'est ce qu'ils ont fait, plus 25%. Donc, si vous voulez, ça dope le Nasdaq. Vous voyez les marchés américains sont en hausse depuis ce matin. Donc, on a collé au marché américain un peu avant l'ouverture. À l'ouverture, boum, ça s'écroule. Et on perd 1,14, on en regagne 0,8. Donc, conséquence, c'est la démonstration d'une très grande hésitation du fait que les marchés, si vous voulez, les indices actions sont quand même sous pression avec toutes ces raisons d'avoir peur de la suite des événements. Donc, je ne peux pas donner des niveaux comme ça où j'interviens d'une manière... Là, par exemple, j'ai mal acheté ce matin. J'ai tenté quand même des achats, j'ai mal acheté, j'ai eu tort, mais mon stop, il est sous les 7050 maintenant, parce que on est en neutralité, donc je tente les deux opérations. J'avais commencé aussi par vendre ce matin, alors, donc là, c'était un coup de chance. Enfin, un coup de chance, du fait qu'on avait cassé de 7220 hier, on était en neutre, donc on peut vendre sur rebond ou acheter sur des replis. Mais l'idée là, c'est que j'ai mal acheté et j'ai eu une porte de sortie à 225, 227 exactement, j'ai réussi à vendre. Donc je suis sorti du marché et je me suis replacé à 7191,5 pour tout vous dire. Je donne une idée de ce qu'on peut faire, mais c'est, si vous voulez, c'est vraiment quand même un petit peu discrétionnaire dans la mesure où ne s'impose pas une direction intraday. Donc on va garder ce comportement opportuniste extrêmement léger. Donc on y va doucement dans ce genre de situation, hein, non directionnel, beaucoup d'hésitation. On travaille pas mal avec les options, donc c'est pour ça aussi que le marché, si tout le monde fait un peu comme moi, il n'y a pas de raison qu'on aille dans une direction. Mais par contre, ça peut freiner des mouvements, etc. Donc on a aussi un peu la même chose sur l'euro-dollar. Il a cassé les 1,0770, il reste baissier. Donc tout à l'heure, il y a eu un petit rebond, d'ailleurs bizarre, on a pu vendre. Et puis ça rebaisse un peu, mais ça hésite beaucoup. On n'a pas non plus une très forte direction ancrée à la baisse sur l'euro-dollar. Là, il y a pas de grande manœuvre. On voit que on reste quand même proche, pas si éloigné que ça des 1,0770. Donc on est dans un biais neutre pour aller chercher potentiellement 1,0480. Mais on va voir, hein, si dans les 2-3 jours, on confirme pas sous 1,07 et vers 1,06. Écoutez, on se dira qu'après tout, on reste dans une neutralité dans l'attente de nombreuses améliorations fondamentales.
Jean-Louis, on en parlait avec nos invités il y a quelques minutes. On a l'impression que le climat se dégrade un peu plus rapidement que prévu au niveau de la conjoncture. On a eu ce matin les chiffres de la croissance en Allemagne et techniquement l'économie allemande est maintenant en récession. On aura cet après-midi les chiffres du PIB aux États-Unis et la première estimation avait vraiment surpris le marché parce qu'elle était inférieure aux attentes. Est-ce qu'il n'y a pas un tournant, peut-être un ralentissement qui est plus rapide que prévu et qui risque de rappeler à l'ordre les marchés actions? Est-ce qu'aujourd'hui, les nuages sont en train de s'accumuler, selon vous, au-dessus des marchés actions?
Alors, les nuages sont là depuis très longtemps. Donc, vous savez, les investisseurs sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. La situation en Allemagne, elle est pricée depuis longtemps. Elle est anticipée depuis longtemps. Les investisseurs, je vous assure, ils sont prêts à tout entendre. Et c'est pour ça que la construction qui a été faite de cette hausse, elle est très particulière. Historiquement, elle est très particulière parce qu'elle s'est faite dans la méfiance, avec des volatilités implicites toujours très élevées. Et c'est pour ça que j'ai répété, le marché n'est pas vulnérable. Vous savez, les phénomènes de crash dans l'avenir, et l'avenir a déjà commencé, viendront de phénomènes endogènes au marché, des phénomènes de construction au marché. C'est-à-dire, par exemple, en 2020, évidemment qu'il y a eu la Covid, mais il y avait une situation où un catalyseur négatif mauvais pouvait provoquer une baisse forte. Alors, pas aussi forte que celle qu'on a vue, bien évidemment, mais le marché était, au niveau de sa construction, extrêmement vulnérable. Là, il ne l'était pas. Et il a été un tout petit peu, je l'ai annoncé il y a quelques jours, en disant, là, on n'a pas vraiment encore de complaisance, mais il y a un phénomène de « on ne sait plus quoi faire », mais qui n'est pas assez long dans le temps pour que le marché soit vulnérable. Mais le « on ne sait plus trop quoi faire », ça se traduit par quoi ? Par des achats d'indices, parce qu'après tout, c'est plus facile, c'est plus rapide, et le risque est diversifié, et par des ventes de put, parce que les investisseurs se disent après tout, bon, ben, si ça baisse un peu, moi je suis acheteur, de toute façon j'aurais envie d'acheter, donc je peux vendre des put. Et quand ils vendent des put, et que tout se passe bien, ben, ils les encaissent, ou ils achètent, évidemment, dans des bonnes conditions. Mais si se greffe là-dessus un catalyseur négatif et qu'il y a beaucoup de ventes de put, là, ils ne veulent plus acheter parce qu'il y a quelque chose de négatif. Et du coup, ça crée un phénomène d'effet domino à la baisse extrêmement violent. Et comme ils interviennent beaucoup moins rapidement que peuvent le faire les market makers pour qui c'est leur métier, c'est quand les investisseurs ou les particuliers se mettent à faire ça, c'est là que le marché devient dangereux. Pas trop quand ce sont les market makers, mais quand les investisseurs ou les particuliers le font, là ça devient dangereux. C'est pas encore le cas.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval. Il est 11h38, votre rendez-vous sur le green, rendez-vous consacré à l'investissement responsable. Je suis ravi d'accueillir Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Directrice générale de Novetic, on est en pleine période des assemblées générales d'entreprise. Elles ont parfois été compliquées dans le secteur pétrolier. On l'a vu il y a quelques jours à Londres avec l'assemblée générale de Shell qui a été perturbée par des manifestants défenseurs du climat. Ça va sans doute donner des sueurs froides à la direction de Total Energy, puisque l'AG, ce sera demain.
Tout à fait. Bah, on peut même dire que c'est un peu la panique hein, dans les AG du secteur pétrolier. Alors, on savait qu'il y allait avoir des tensions, mais enfin, celle de Shell a quand même largement dépassé les attentes. En fait, les activistes, donc d'une part, ont pris la parole, sont montés sur les sièges en disant un slogan assez simple, « Go to hell, Shell », c'est-à-dire « Va en enfer, Shell », avec des discours extrêmement forts sur le côté climaticide, mais aussi, il y a une des activistes qui a dit « Vous tuez nos enfants », etc., etc. Et puis il y en a qui ont chanté. Alors j'ai tenté un chant, c'est avec le chant Go to hell Shell, don't you come back no more, no more. Donc il y a vraiment eu un happening absolument extraordinaire, ce qui a complètement perturbé les dirigeants qui ne savaient plus. On a plein d'images qui tournent sur les réseaux sociaux, ils regardent partout en disant comment on va faire. Et à ce stade, c'est ça l'image qui reste de l'AG.
Mais je vais vous poser une question un peu naïve. Comment est-ce que les groupes pétroliers pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas anticipé ces manifestations?
Alors ils l'anticipent parce qu'il y a des vigiles qui se sont... Mais c'est le principe, en fait, ces activistes, ils ont des actions. Donc en gros, on assiste, et ça a été le cas aussi à l'AG de BNP Paribas, à une espèce de bataille d'Hernani entre les petits actionnaires qui sont tout à fait opposés à ces happenings, donc qui disent « taisez-vous, asseyez-vous, rentrez chez vous », etc. Et les activistes qui sont là en tant qu'actionnaires, et qui du coup disrupte l'AG en tant qu'actionnaire. Donc ce qui est intéressant là-dessus, et Total, c'est carrément, les activistes environnementaux ont carrément dit que leur objectif c'était d'empêcher la tenue de l'AG. Alors comment on en arrive à des positions aussi radicales? Parce que finalement, comme vous le savez, d'un point de vue financier, le regain d'attractivité du secteur pétrolier lié à la guerre en Ukraine, évidemment, a changé la donne.
Bénéfice record, dividende à la hausse.
Donc du coup, du point de vue actionnaire court terme, bien sûr, on s'attendait à une AG de réjouissance générale. Du point de vue climatique, c'est un vrai problème. Et c'est ça qui est aujourd'hui, qui explique la radicalité de ces activistes, c'est-à-dire que confrontés au fait que la sortie des énergies fossiles, dont on espère qu'elle soit programmée depuis 2015 maintenant, elle recule encore un peu plus. Et donc, du coup, ils en font encore un peu plus pour alerter sur le risque climatique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une divergence entre les intérêts, c'était un peu pour suivre Jean-Louis Cussac, on voit une divergence profonde entre les fonds de pension, les investisseurs de long terme et les acteurs de court terme. Là, il y a un spécialiste de l'activisme actionnarial pour les pétroliers qui écrivait hier soir sur LinkedIn, de toute façon, c'est plus la peine, ils veulent pas comprendre, on peut rien faire. Par contre, c'est contraire, s'opposer au message climatique, dire on va continuer jusqu'à ce qui est plus de besoin du secteur fossile, c'est un risque que les investisseurs institutionnels de long terme que sont les fonds de pension ne veulent plus prendre.
Mais est-ce que ces interventions dans les assemblées générales, ça peut réellement faire changer les choses.
Alors, effectivement, est-ce que c'est constructif? Bonne question. D'abord, ça donne un spectacle où, évidemment, il n'y a pas de débat de fond. Et en fait, l'objectif qu'ont les investisseurs institutionnels qui ont des engagements climat, c'est beaucoup plus d'avoir ce qu'on appelle des « say on climate ». C'est-à-dire, c'est l'idée d'avoir des résolutions très précises sur la stratégie climatique, avec des objectifs chiffrés, ambitieux, et un programme d'action, un plan d'action, sur lequel on peut débattre au sein de l'Assemblée générale avec les investisseurs institutionnels.
Et aussi peut-être une résonance médiatique, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin.
Alors voilà, sauf que, en fait, il faut se dire les choses, des Say on Climate, cette année, il y en a moins de 10 dans les grandes entreprises cotées en France. Donc on voit bien qu'il y a une réticence aujourd'hui forte des entreprises à le faire. Et pour, puisqu'on est sur le secteur pétrolier, il y a une entreprise qui tient son AG aujourd'hui qui s'appelle Vallourec, qui est donc au SBF 120, qui est une parapétrolière. Alors les parapétrolières sont moins dans l'œil du cyclone parce que, médiatiquement parlant, c'est plus intéressant pour les activistes d'aller dans les AG des majors. Mais elle a fait son Say on Climate. Et ce qui est intéressant, c'est que le Forum pour l'investissement responsable fait une analyse dans le détail des Say on Climate. Et sur Vallourec, il dit « peut mieux faire ». C'est-à-dire qu'en gros, on a un tiers du Say on Climate de Vallourec qui correspond aux recommandations du Forum pour l'investissement responsable. Juste un chiffre à avoir en tête, qui est important pour un investisseur, ils annoncent qu'ils ont 2% de leur activité qui est alignée sur la taxonomie européenne qui définit les activités vraiment vertes. Or là, il y a une contradiction avec leur positionnement actuel qui est de dire « nous serons ceux qui vont rendre service à l'hydrogène et à la géothermie grâce à la solidité de nos tuyaux ». Et là, on voit bien qu'il y a un paradoxe parce qu'en fait, de facto, c'est 70%, plus de 70% de leur activité qui reste pétrolière. Ils viennent de signer un énorme partenariat avec Saudi Aramco pour les 10 ans à venir. Donc on a une illustration de plus que le secteur pétrolier et parapétrolier n'est pas en train de disrupter son modèle. Et on ça, c'est un problème climatique.
On a quand même l'impression qu'il n'est plus possible de parler calmement de la question climatique entre d'un côté des activistes et de l'autre des compagnies pétrolières qui, vous l'avez dit, hein, viennent de publier des résultats exceptionnels.
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de radicalité, de montée de la violence, etc. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est vite dans un dialogue de sourds parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est beaucoup resté dans l'incantation, dans l'action, dans l'engagement. Mais en revanche, le fait de se dire, et c'est pour ça que la crise est là et que les activistes disent « bon, maintenant, on ne discute plus, on ferme les compagnies pétrolières et c'est tout ». Alors, évidemment, non, ce n'est pas possible. Effectivement, ils le savent. En revanche, c'est bien de poser la question comme ça. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, elle a montré quoi ? Un, on est toujours totalement dépendant des énergies fossiles. Deux, on a juste changé de fournisseur, mais on n'a pas du tout lancé, au niveau européen, le programme nécessaire pour être réellement autonome et indépendant, ce qui veut dire investir massivement dans les énergies renouvelables. Donc, en fait, le dialogue, c'est vrai qu'on peut se dire, bah oui, mais c'est pas possible de discuter parce que tout le monde s'énerve. Mais en fait, tout le monde s'énerve parce qu'on perd un temps fou. Et c'est vrai que là, la tonalité des AG, on le voit très bien avec celle de Shell hier, est beaucoup plus violente et beaucoup plus radicale que celle de l'année dernière où c'était déjà tendu. Et donc, on n'avance pas beaucoup, en fait. Et donc, 2024, l'enjeu, ça serait que si on a des Say on Climate régulés, c'est une des propositions qui est sur la table par rapport au ministère des Finances, qu'on a un cadre, que si toutes les entreprises se mettent dans ce cadre, on peut imaginer qu'il y aura une autre nature de débat, parce qu'on serait sur des vrais plans de transition climatique.
Et des discussions constructives.
Et des décisions constructives. Et là, ce n'est pas le cas.
Merci beaucoup, Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Il est 11h45, on passe aux questions-réponses.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Les réponses aux questions que vous nous avez adressées ce matin, on va parler des futurs plans à venir pour le climat, on va parler des déclarations de plus-value à l'administration fiscale et puis on parlera cinéma puisqu'on est en plein festival de Cannes. On verra si c'est intéressant d'acheter des SOFICA, des sociétés anonymes qui permettent d'investir dans la production audiovisuelle. Et tout ça, on va en parler avec Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant. Rebonjour Jean-François, question de Alain qui nous dit « Mécontent, j'ai gardé mes actions EDF, je ne les ai pas apportées aux offres d'achat de l'État français. Pourrais-je aller à l'Assemblée Générale le 14 juin prochain ?»
L'État a publié, c'était le 23 mai, c'est mardi, un communiqué de presse en disant succès, l'OPA de l'État sur les titres EDF se termine par un franc succès ou un truc comme ça. Je vais nuancer le sujet. EDF, le dossier EDF restera dans les annales de la relation entre les Français et la Bourse comme étant l'une des pires catastrophes l'un des pires scénarios au même titre que ce que l'on a connu avec Eurotunnel et avec Natixis. Les raisons ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, il faut essayer de comprendre les raisons et de voir un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe ? Si on prend le dossier Eurotunnel. Eurotunnel, c'était en fait le financement d'un projet de capital risque, d'un truc qui n'existait pas, par des capitaux privés. Aujourd'hui, on ferait ça dans le cadre de produits non cotés. Là, on l'a fait dans le cadre d'un produit qui était un produit coté tous les jours, qui était une action. Et on sait qu'en pareille situation, on a des risques très importants. Les risques, on a dû les affronter, on a dû recapitaliser la boîte, etc. Mais j'ai tendance à dire que c'était un peu la vie des affaires. On avait sous-estimé l'ampleur du risque. Le sujet de Natixis, c'est un autre sujet. Le sujet de Natixis, c'est un sujet, finalement, du poids du majoritaire. Autrement dit, vous avez le groupe BPCE qui a besoin de mettre, qui se dit ça serait pas mal d'aller mettre Natixis sur le marché. Vous avez un problème de pratique commerciale parce que vous utilisez vos réseaux commerciaux pour aller vendre vos propres titres. Et puis le jour où finalement vous vous dites j'ai eu des pommes, etc. Je sors les minoritaires pour restructurer la boîte et reprendre la valeur à mon profit. Donc le sujet Natixis est un sujet majoritaire, minoritaire. Le sujet d'EDF, c'est aussi un sujet majoritaire, minoritaire. Parce que l'État est largement majoritaire, 85% avant la première offre, environ 97% aujourd'hui. Mais il y a des responsabilités financières, mais moi je pense que le vrai sujet qu'on a, puisque la question qui nous est posée par Alain est une question autour de l'Assemblée Générale, c'est un sujet de gouvernance. Et vous savez, Anne-Catherine était là il y a de cela quelques instants pour vous parler de l'Assemblée Générale des pétrolières. On ne cesse de nous dire que dans un monde où il faut faire de la finance durable, etc., il faut s'intéresser au social, à l'environnemental et à la gouvernance. Et Paris, la France, ne cesse de clamer sur tous les toits qu'elle est le cœur européen de la finance durable, etc. Je trouve que sur le sujet d'EDF, nous avons un gigantesque témoignage des dysfonctionnements de la gouvernance dans ce pays. Donc, je vais expliquer le pourquoi et du comment. Cette semaine, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a déclaré sur l'antenne de RTL que le 8 juin, l'État serait propriétaire de 100% d'EDF. Il ne vous aura pas échappé que le 8 juin est une date qui est antérieure à la date du 14 juin.
Qui sera l'Assemblée Générale des actionnaires.
Qui est la date de l'Assemblée Générale et que, par conséquent, si le 8 juin, l'État est propriétaire de 100% des titres EDF,
il n'y a aucune possibilité qu'Alain puisse accéder à
l'Assemblée Générale. Alain ne pourra pas aller à l'Assemblée Générale du 14 juin. Visiblement, vu comment commence sa question, s'il a prévu d'y aller, c'est qu'il n'y allait pas. Je suis pas sûr que ce soit les activistes d'échelle. Oui. Mais effectivement, pour reprendre votre expression, je suis pas sûr qu'il ait envie d'y aller avec un bouquet de roses. Bon, en pratique, là où j'ai un problème en termes de gouvernance, c'est que le 23 mai, vous avez le gouvernement qui dit on a désormais réussi notre deuxième OPA, donc on peut demander une offre publique de retrait. Ce qu'ils ont fait le jour même. Mais l'offre publique de retrait doit être validée par le Collège de l'Autorité des marchés financiers qui se réunit tous les mardis, une fois tous les 15 jours. Donc, je n'ai pas regardé le calendrier exact, mais j'imagine que ce sera le premier mardi du mois de juin, c'est-à-dire le 6, la prochaine réunion. Donc, ça veut dire que le ministre préjuge de la décision du Collège de l'AMF. Ce qui, me semble-t-il, est une légère pression sur le Collège de l'AMF. Donc, si, puisque l'AMF ne cesse de temps en temps de nous dire que dans ces missions, il y a quelque part la défense de la place. Ben moi, j'aurais un petit message à faire passer au collège de l'AMF. C'est que si vous avez une petite idée de ce que doit être la gouvernance, une bonne gouvernance de la place de Paris, vous ne validez pas l'offre publique de retrait lors de votre prochaine réunion. Vous attendez 3 semaines pour pouvoir le faire. Vous faites en sorte que l'Assemblée Générale du 14 juin se passe, je le dis tout de suite, si elle se passe, elle se passera vraisemblablement pas très bien, parce que les actionnaires individuels qui iront ne seront pas spécialement très contents, et visiblement les actionnaires salariés ne le sont pas, mais au moins on aura eu un fonctionnement correct de la démocratie, et on essaiera quelque part de sortir à peu près proprement de ce triste dossier.
On va passer aux autres questions rapidement. Question de Michel qui nous dit « Tiens, Jean-François Fillat n'a pas parlé de la performance attendue des futurs plans à venir pour le climat. Ce sera intéressant ou pas ?»
Alors, deux remarques très vite, puisque je sens que vous voulez que j'en traite plein. Première remarque, le ministre nous dit ça ne sera pas un taux comme le taux du livret A, mais comme c'est du long terme, ça sera plus. Alors moi, là-dessus, je fais deux remarques. La première remarque, c'est une remarque qui consiste à dire que le long terme rapporte plus que le court. Bon, historiquement, c'est vrai, il y a des moments où c'est faux. Actuellement, c'est faux.
C'est pas une science exacte.
Si vous regardez, aujourd'hui, le livret A, c'est du court terme, ça rapporte plus que le fonds d'euro, c'est du long terme. Donc actuellement, c'est faux. Deuxièmement, il y a des sujets quand même qui doivent se poser sur la croissance verte. Et notamment, je fais référence au rapport qui a été publié il y a deux jours par France Stratégie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, traditionnellement, quand on fait des investissements, ça augmente la capacité de production. Donc, on se dit que si ça augmente la capacité de production, on accroît la rentabilité. En fait, très souvent, on va faire des investissements dans le cadre de la finance verte qui vont substituer à d'autres choses. C'est-à-dire, on va substituer une bagnole électrique à une bagnole thermique. Donc, c'est de la substitution. Donc, a priori, la substitution n'est pas censée avoir tout à fait la même rentabilité qu'un investissement d'augmentation de production. Dernier point dont on n'a pas parlé, c'est que comme c'est un produit concurrentiel, il y aura des frais, et que le niveau des frais, on n'en parle pas, et que si je devais rajouter un truc à ma chronique de tout à l'heure, je pense que le gouvernement doit imposer la transférabilité de ces nouveaux plans d'avenir pour le climat, doit plafonner les frais, les plafonner à bas niveau, et si les banquiers et les assureurs ne sont pas contents, il faudra leur dire bah, « c'est votre action pour le climat ».
Question en plein festival de Cannes, je le disais en introduction, est-ce qu'on peut encore acheter des Sofica pour réduire l'impôt sur 2022? Les Sofica, ce sont les sociétés anonymes qui permettent d'investir dans la production audiovisuelle.
Eh bien écoutez, quel que soit le festival de Cannes ou pas, vous savez qu'il y a une période fiscale qui est couverte par la déclaration, c'est 1er janvier, 31 décembre.
Donc c'est trop tard pour 2022. Il est encore temps pour 2023.
Donc on peut, 2023, on peut regarder, mais en tout cas, sur le sujet 2022, l'heure est aujourd'hui de remplir sa déclaration et absolument pas de faire des opérations pour changer son impôt.
Question de Chris qui nous demande, où en est-on sur la vente de CGG sur le portefeuille de marché gagnant?
0,60, vente, ordre de vente de nos titres à 0,7532 qui continue de traîner. On avait mis une limite qui était très haute depuis le titre a baissé. Donc on laisse filer, comme je dis toujours, on est à la pêche.
Allez, une dernière question, celle de Claude qui nous dit « J'ai vendu des titres en 2022 et sur le papier de ma banque, j'ai des plus-values avec abattement et des plus-values sans abattement. Du coup, comment est-ce que je remplis ma déclaration d'impôt ?»
Timing, 30 secondes.
Oh, une minute, une bonne minute.
Super, c'est la fête. Alors, là, la référence qu'il fait, c'est qu'en fait, la fiscalité a changé en 2018. Donc, la fiscalité, en fait, diffère sur les titres qui sont acquis après le 1er janvier 2018 et les titres qui sont acquis avant le 1er janvier 2018. Donc là, en fait, visiblement, il a dû vendre des titres. Un bout avait été acheté avant 2018 et un bout après. Maintenant, on va simplifier les choses. La logique de base, c'est flat tax pour tous les titres. Donc flat tax, ça veut dire 30% d'imposition, 12,8% au titre de l'impôt, 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Donc la première question qu'il faut qu'il se pose, c'est est-ce qu'il a intérêt ou pas à la flat tax? Pour ça, il faut qu'il regarde sa tranche marginale d'imposition. Elle n'était pas dans sa déclaration d'impôt, donc il faut qu'il regarde son revenu fiscal de référence et qu'il regarde le barème. S'il était dans la tranche à 0 ou s'il était dans la tranche à 11, il a intérêt à ne pas opter pour la flat tax. Autrement dit, en pareille situation, il cochera la case 2 OP et il utilisera deux cases dans sa déclaration de revenus, une sur laquelle il y a l'abattement et une sur laquelle il n'y a pas l'abattement. Si jamais il est dans la tranche des 30%, voire plus, grosso modo, il aura la flat tax et l'abattement, on s'en moquera, puisque de toute manière, l'abattement n'est pas applicable quand on a la flat tax.
Merci beaucoup pour cette précision. Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant. 11h56, dans une poignée de minutes, ce sera l'heure de 90 minutes business avec Sandra Gondouin.
Bonjour Stéphane.
Sandra, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
Le marché de l'emploi des cadres très dynamique, mais très tendu aussi, les difficultés de recrutement n'ont cessé de progresser. On va détailler ça dans un instant avec Nathan Cocampo. On parlera aussi des derniers chiffres qui sont tombés tout à l'heure de la Fédération des promoteurs immobiliers. La crise s'aggrave, on va le voir dans le détail avec Marie-Cœur de Roy. Et puis notre invité fait partie des 10 entrepreneurs choisis par l'association Diversity Days pour avoir créé une start-up à impact. Cécile Amia sera avec nous pour Easy Paper, ce sera notre invité. Et puis à 13h, évidemment, comme tous les jours, on répondra aux questions des auditeurs. auditeurs téléspectateurs. On parlera de la réforme des retraites aujourd'hui.
Merci beaucoup Sandra Gandoin et toute son équipe, notamment Jean-Marc Daniel qui vient d'entrer en studio et qui se prépare. C'est à suivre dans 3 minutes précisément sur notre antenne. Demain, BFM Patrimoine à partir de 10h vous sera présenté de nouveau par Cédric Decoeur. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.